amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu, pardon. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission consacrée à une pièce qui s'appelle Lampedusa Beach. Je suis donc avec Hélène Grange. Hélène Grange, bonjour.
Bonjour, Amandine.
Alors, c'est toi, Hélène, qui nous propose cette lecture. Il s'agit d'un monologue qui a été écrit par...
Lina Prosa, qui est une dramaturge sicilienne contemporaine. Voilà, et tu sais comme ça m'est cher de pouvoir faire entendre les voix des femmes écrivaines de théâtre vivantes. C'est un texte qui a été écrit en 2003, qui a été monté à la Comédie Française, je ne sais plus, dans la foulée, il me semble, ou quelques années après, et puis enregistré sur France Culture.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, on va le redécouvrir sur Radio Canu. Avant ça, je propose de faire une petite écoute musicale.
Je suis Mama, l'Africaine. Non, Mama, tu es l'Africaine. Non, Shaoba, je suis l'Africaine. Non, Mama, tu es l'Africaine. Non, Shaoba, je suis l'Africaine. D'accord, Mama, tu es l'Africaine. J'obéis, je dis oui à Mama. La quantité d'F n'est pas un obstacle. Les faits le sont. Ce sont des giclées de sable dans la langue. F- une sorte de bégaiement africain. Il n'y a pas de sang dans mon cœur triste. Tout ralentit. Mon cerveau va abandonner mes os. Où les laissera-t-il dans l'eau? Aujourd'hui, je dis oui à ma tante bien-aimée, à Mahama. Elle a fait partir tout le monde, sauf elle-même, parce qu'elle dit « Mahama, moi je ne pars pas, je pousse les barques vers le large, je les aide à quitter plus vite le quai. » Je le sais, Mahama, tu fais un grand effort avec ta langue. Tu fais du vent favorable au bateau, comme le ventilateur à la proue d'un paquebot. Pfff, pfff, pfff. Aide-moi à mourir à présent, coule-moi, coule-moi. Il est dur pour moi de sombrer dans cette mer. Il n'y a rien en moi, ni main, ni pied, ni dos, qui sache virer comme une nageuse. Je descends jusqu'où la mer finit, en chute verticale. Une grande pression sur la tête me pousse vers le bas. Elle a la prise de la main d'un assassin. Mahama, je suis sous l'eau. Allez, allez, marin de l'enfer, écarte-toi de moi. La seule idée que dans cette immensité opaque, quelque chose m'effleure, me fait crever mon cœur. Mahama, tu le sais, je hais tout contact physique. Je suis trop découverte, je ne veux pas mourir comme ça, de honte. Des poissons jamais vus auparavant se jettent sur moi. Cadavres, des cadavres humains. Le naufrage a été total et d'une simplicité absolue. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas eu de tempête, pas de lutte, de résistance. Aucune manœuvre d'expertise de la marine, aucun appel de capitaine, aucune alerte, aucune alarme. Il n'y a pas eu de soulèvement, de vague, rien qui concernât la mer. La mer est innocente. J'ai mal à l'estomac, ça m'arrive dès qu'on me plonge dans l'eau. Là, je suis dans le baquet où ma mère me donnait le bain. Je ne sortirai jamais de là. Je ne serai pas prise dans les bras pour boire un verre de lait chaud. Dans cette lourde immensité, si tu as un estomac, tu es condamnée à une douleur chronique. Ajoutons encore un F, Mahama. Afrique. Si la langue parvient à prononcer plus d'un F, il m'arrive une certaine saveur de terre. C'est comme si tu m'écoutais et que je te répondais. F. J'ai besoin d'être enterrée comme tous nos parents. J'ai peur de pourrir. Comme tout ce qui ne peut pas rester longtemps dans l'eau. Comme qui boit plus d'eau que le corps ne peut en contenir. Enterre-moi dans la terre et je redeviendrai sèche. Les F de Mahama sont la petite gêne de qui n'a jamais fait d'études. C'est un échappement du vide de la dent qui ne soutient pas la passion de la langue lancée dans la parole. Moi qui fais naufrage sans arrêt, puisque mon naufrage n'est pas quelque chose qui se conclut, je me prends d'affection pour l'échappement de la dent de la vieille, comme si devant la mort, il n'existait rien d'autre. La vision de la vie se restreint-elle autant quand celle-ci s'apprête à finir? j'ai appris quelque chose dans une mission où l'on me mettait pendant les pluies. Je dois m'abriter de l'humidité puisque je suis née avec des bronches faibles. Cette petite maison blanche, bien faite, tout en rez-de-chaussée, c'était la seule architecture décente dans un rayon de 300 kilomètres. En réalité, Mahama m'envoyait là-bas pour que j'écoute tout ce que l'on disait sur Rome. Elle pensait que dans une mission de prêtre, on devait forcément parler de Rome. Quelques nouvelles, je les lui ai apportées, et même une carte postale volée à un enfant, adoptée par correspondance par un couple de Romains. J'ai fait semblant de ne pas savoir, mais Mahama travaillait dans sa tête comme une agence de voyage pour des femmes qui cherchent leur chance. Mahama avait certainement prévu qu'une fois débarquée à Lampedusa, je poursuivrais sur Rome. C'était la destination qu'elle avait rêvée pour moi. Une fois, elle a essayé avec un employé du bureau des migrations. L'employé a pontifié « Revenez après avoir ôté cette baleine de votre bouche. » Voilà comment s'appelle chez nous ce dérangement dû à l'ignorance. Baleinite. Dans le jargon des spécialistes, on dit « consonantisme ». Mais en point de mort, je préfère avoir de l'affection pour la baleinite. Je la sens sur moi comme une écaille enflammée. Je suis sûre que même les poissons en souffrent éternellement, restant toujours plongés dans l'eau. La pointe de ta langue rougit à cause de la production continue d'eff. N'a pas moins d'effet que la vie d'un poisson, Mahama. Ah, comme je te comprends. Là où je suis née, si une femme a un problème, elle va chez l'Africaine. Et l'Africaine le lui résout. Ou bien la cliente de l'Africaine cesse de souffrir, même si elle doit attendre beaucoup de temps pour résoudre son problème. Si pendant l'année le problème demeure et la cliente retombe dans la mélancolie comme le tourbillon d'une hélice au tronc de la vie, sensation que nous avons tous connue, elle explique tout avec le capitalisme. Un jour, on mange l'autre, non. Capitalisme. Survivre, cela dépend de la bonté des capitalistes. Les clientes de ma tante ont tout un problème de faim. Ma mère aussi est allée la trouver en la plaçant devant un problème. Mais ça s'est révélé comme un problème plus grand que l'Afrique. Que faisons-nous, mes enfants et moi, le jour non ? Mahama a répondu « Fais partir la plus jeune, fais-la partir le jour non. Ceux qui resteront regarderont son départ, seront occupés à pleurer. Et quand le cœur souffre, on ne pense pas à manger. » Ma mère a répliqué « Une fille pour chaque jour non ? Il ne va plus rester personne avec moi. » L'Africaine, ne pouvant plus retenir l'anxiété de ma mère et des autres mères, rassembla un jour toutes les femmes du quartier. Si vos enfants tombaient amoureux, il n'y aurait pas besoin de capitalisme. Les amoureux se nourrissent de vent. Le peu de nourriture que nous avons peut-être partagé entre les jours oui et les jours non, et les jours pourraient tous être oui. Les mères se demandèrent « À quoi mène l'amour ?» Chacune pensa à son histoire et garda le silence. L'Africaine prépara mon départ. 3 millions comptant. 3 ans d'économie. Mahama elle-même suivit le contact avec les matelots de coq. Elle le fit avec naturel, non parce qu'elle pensait que leur méthode était licite, Elle soutient que lorsque c'est le milieu qui te donne ce dont tu as besoin, il vaut mieux se montrer déterminée et fille de pute plutôt qu'ange, ou femmelette, en odeur d'ingénuité. Tout est réglé, c'est ce qu'elle vint me dire le 7 juillet. J'ai tout contrôlé moi-même, personne ne m'a vu. Je me suis glissée en cachette dans le bateau, feignant d'être la mère d'un matelot arrêté par la police, balancé par un vieil homme habitué à prendre des pots de vin de tous les côtés. J'ai fait semblant de demander des nouvelles de ce fils présumé. Ils m'ont cloué le bec. Ils m'ont défendu de le nommer. Et tant mieux, comme ça, je ne connaissais pas son nom. Mais seulement son histoire. Le matelot qui va en tôle ne doit plus avoir de contact avec les gens qu'il a connus. Mais j'ai eu le temps de regarder tout autour. La poupe est rouillée, mais à proue, on a donné une couche de peinture fraîche. Ça donne du cœur de la regarder. Ne te fais pas de soucis, tous nos hommes sont de bons marins. Même le plus paresseux, le plus malhonnête, sait comment conduire un bateau et le ramener à la maison. Une recommandation. Tu dois monter parmi les premiers. Vite. Dès l'ordre d'embarquement, tu dois courir à proue. À proue, Chaouba. Tu dois aller à proue. Le bateau est découvert, sans abri du soleil. Et même s'il y en avait, il faudrait faire tes comptes avec une masse d'Africains qui ont le même besoin d'être à l'abri du soleil. Vous serez 700 à partir. 700 corps de plus pour un vieux berceau en mesure de loger pas plus que deux jumeaux. Tu auras besoin des lunettes. Tu dois les garder droites vers l'horizon. Tu dois toujours maîtriser la direction. Avec les lunettes, personne ne peut te rouler. Tu peux toi-même contrôler l'arrivée. Le matelot ne dit pas toujours la vérité. Une fois, il est revenu en arrière, mais avec la moitié seulement des voyageurs. On n'a jamais rien su de l'autre moitié. Une autre fois, il a vidé le bateau en pleine mer, comme une casserole d'eau sale. Tout cela parce que le clandestin est privé de la vérité. On le garde à l'obscur de tout. Il n'a jamais vu une carte postale de Lampedusa. Il n'en a jamais reçu. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Quand on le fait débarquer, rien ne dit qu'il est à Lampedusa. Mais toi, si tu as des lunettes sous le soleil brûlant et que tu peux regarder devant toi clairement, il ne peut pas te rouler. Il devra te conduire à la destination de la carte postale. Je suis partie le jour non, en conclusion d'une rencontre secrète avec ma ama. 10 cartes postales alignées sur la table pour étudier le paysage comme un plan aux mains d'un espion. C'était des cartes arrivées normalement par la poste, mais elle, comment les avait-elle eues ? Inutile de se poser cette question au moment du départ. Les lunettes de soleil bien plantées entre le nez et les oreilles, j'ai pris place à proue. Comme un aigle qui connaît son affaire. Et je ne les ai plus ôtées. Bridées derrière les oreilles avec un lacet qui renforçait la fixation des branches. Je me suis sentie comme un pilote des années 30, celui que nous avons vu dans le film Envoyé d'Europe, pour nous faire connaître les merveilles du pays développé.
L'air que Dieu qui prie pour eux. Ils ont menti sur leur avenir. Ils sont partis pour devenir. Mais c'est ici qu'on les oublie. Mais c'est ici qu'on les oublie. C'est leur îlot trésor. Leur envie d'espérance, et sur leur transistor, ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France, c'est leur îlot trésor. Leur envie d'espérance, et sur leur transistor, ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France. Tu verras en France. Leur aller simple est sans retour. Traquer le jour, parquer la nuit. Ils travaillent pour en vie, ils travaillent pour rester en vie. Quand ils sont pris, ils sont que dalle. Tous les pays se renvoient là-bas, même leur patrie s'est fait la malle. Même leur patrie s'est fait la malle. C'est leur îlot trésor. Leur envie d'espérance sur leur transistor. Ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France. C'est leur îlot trésor. Leur envie d'espérance sur leur transistor. Ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France. Tu verras en France. Tu verras en France. Tu verras.
J'ai fait avec précision ce que tu m'as dit. Une seule petite désobéissance. J'ai attaché à ma taille un bol en coco. J'ai voulu l'emmener avec moi, même s'il était défendu de porter à bord encombrement et poids de quelque nature que ce soit. Il était parfaitement caché sous mon écharpe. De temps à autre, un matelot, le plus jeune, regardait fixement entre mes jambes. Moi, j'avais la tête à mon bol de coco et je rentrais mon ventre pour donner de l'espace à l'objet clandestin. Lui, il pensait à mon con. Et d'une certaine manière, lui aussi souffrait. Le chef matelot, pour faire plus de fric, avait interdit de laisser des espaces libres dans le bateau, et il n'y avait donc pas d'espace pour violer les filles. Ce que le jeune homme avait programmé dès le départ. Ils avaient pratiquement entassé les clandestins jusque dans l'espace réservé à la violence charnelle. Maman. Maman, tu ne le croiras pas, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont quand même fait sans espace. Tu te demanderas comment ça a été possible. Tu crois, toi, à l'espace, car tu me disais « Rien n'arrive si on ne peut pas bouger à l'intérieur des choses. » Tu en faisais une question morale. Au moment où je me noie, j'ai besoin de te le dire. Je te dois la vérité. Les affreux ricaine, doivent aller en Europe en avion, pas en bateau. Pas en bateau. Mahama, ils l'ont fait. Mahama, ils l'ont fait quand même. Ils ont obligé 4 hommes et 4 femmes à s'étendre, accouplés les uns sur les autres, puis les autres. Une pile humaine. Le jeune matelot m'a tiré avec force contre lui, m'obligeant à marcher sur les ventres et les têtes jusqu'à monter sur le sommet. Je serrais contre moi mon bol, il me giflait et me disait la bave à la bouche « Qu'as-tu à défendre, saloperie de nullité? Tu es hors la loi, il n'y a rien ici qui vaille la peine de défendre. Tu m'as acheté pour que je t'emmène dans le monde des riches. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas si tu ne le fais pas pour nous? Pourquoi vas-tu le faire pour eux? L'argent, tu m'as acheté, tu t'en souviens ?» Le matelot plus âgé intervient, excité. D'abord il parle. Tu m'as acheté moi aussi. Tu m'as payé plus. Tu m'as payé plus que le jeune parce que c'est moi qui commande sur cette charrette. Si moi j'avais pas voulu, tu serais encore attaché au récif. Le matelot plus âgé, piétinant bras, tête et autres choses, grimpe sur la cabine de pilotage de la violence. Je me blottis effrayé sur le dernier dos humain de la pile. Qui est en dessous de moi essaie de dire quelque chose. Ensuite, la voix suffoquée se perd en me laissant une sensation de claustrophobie la plus douloureuse que j'ai jamais eue. Mais je peux t'en répéter le sens, Mahama. Je peux te dire ce que la voix voulait dire. N'aie pas peur, nous débarquerons et tu deviendras pur. Tu deviendras pur. J'ai caché dans mes bottes 2 bouteilles de lait de coco. Fais-le, nous devons arriver à Lampedusa. Nous te laverons avec le lait de coco et tu seras notre reine. Qu'est-ce que t'en dis, Mahama? Hein? Mon cœur enfla bien avant que je me noie. Je pensais aux planches humaines qui se trouvaient en dessous de moi. Je dis à la planche, la première au-dessus, « Mohamed, je suis sûr que tu t'appelles ainsi. Demande à la planche qui est en dessous si elle respire encore. » Y a-t-il un sens à se sacrifier si rien qu'une seule planche humaine a cessé de respirer? Ah, Mahama, tu m'as appris à regarder avec respect la planche parce que le jour, non l'esprit du coco, est malgré tout présent. Mais il y avait de nouveaux facteurs dans la catastrophe que ni toi ni moi n'avions évalué. Non, non. Le vrai danger fut la lutte entre le jeune et le vieux. Une pyramide de 700 corps bascule déjà toute seule, mais là, au sommet des planches humaines, si 2 hommes luttent pour une femme et les 700 clandestins tremblent de peur sans pouvoir réagir, le problème n'est plus la morale, Mahama, non. Ni la pudeur, ni l'esprit du coco, le problème c'est l'équilibre. Et dans la mer, c'est tout. Ça s'est vraiment passé ainsi. Le poids se déplaça brusquement d'un côté, puis de l'autre, le bateau se cambra, puis se renversa. C'est ainsi que nous sommes tous tombés à la mer. Mahama. Mahama. Je pleure, Mahama. Je pleure pour toi. Un instant, depuis le sommet, dans le basculement violent du bateau, j'ai vu Lampedusa. Je l'ai vu avec tes lunettes. Avant de me noyer, je veux te dire comment elle est. Lampedusa est claire. Elle a un petit point bleuté sur sa plus haute côte et un halo jaune à sa droite. Je ne sais si c'est du sable de mer ou un lambeau du désert qui arrive à la mer comme chez nous. Un petit palmier devant la maison la plus proche de la côte. On dirait la mèche de cheveux d'une reine grandie au lait de coco. J'ai clairement vu le rapport entre le poisson et le récif de Lampedusa. Le poisson va à sa rencontre sans se blesser, comme chez nous. J'exagère pas en te disant que Lampedusa m'a paru comme Tribourti. J'ai souri. Le nouveau monde m'a paru si petit que j'ai pensé. Valait-il la peine d'aller jusqu'à Lampedusa pour se sentir chez soi? Mais je n'avais pas le temps de faire des objections. L'antichambre de la mort impose une synthèse. Quelle frayeur! Qui est-ce, une ombre, est à côté de moi? Elle glisse rapidement dans l'abîme. C'est un cadavre. C'était une des planches humaines, le ventre est écartelé. Un requin l'a saisi entre ses dents et lui a volé le repas du jour, oui. Du riz et des croustillants, de la viande en boîte. Ah. Son foie pend de son ventre. Qu'arrivera-t-il quand il se posera sur le fond? Que m'arrivera-t-il, Mahama? Mahama, quelle horreur! Les lunettes opposent une résistance au poids du corps. C'est comme si elles voulaient me tirer vers le haut. Elles le font comme une chaloupe de sauvetage. Je pousse un instant la tête hors du fil de l'eau. Ah, comme un bouchon qui quitte le poids de la bouteille et flotte. Oh, je suce l'air avec la bouche comme une pompe. Elle est toute là, l'activité de ma vie. C'est encore le poids qui gagne. Alors je descends, Mahama, je descends à nouveau vers le bas, accroché aux lunettes comme une Mary Poppins et son parapluie vers le bas. Peut-être si je me libère du bol coco, j'allège le corps et le parapluie se remet vers le haut. Et je pourrais peut-être faire surface. Ah, j'ai pas le temps de décider, d'évaluer. Comment me défendre du manque d'éternité? Quelles petites astuces et précautions utiliser? Je suis à la merci de quelque chose qui ne me fait ni vivre, ni mourir. Que conseille Mahomet dans ces cas-là? Tu ne m'en as pas parlé, mais comment se fait-il? L'eau ne me tue pas complètement. Je perds ma chaussure gauche. Je sens un pied plus libre que d'habitude. Et si Mahomet remplaçait la chaussure par une palme, comme on fait avec les nageurs qui vont loin, hein, Mahama? Mahama, si tu m'avais donné des lunettes de sous-marin et non des lunettes de soleil, j'aurais peut-être pu tenter un voyage sous l'eau. Vers Lampedusa ou à nouveau vers l'Afrique? Revenir eût été en réalité une défaite, non. Mais arriver à Lampedusa m'aurait donné un sentiment profond de faute. Ah oui? Tu ne vas pas me croire, mais ce salaud de chef matelot, quand il a tenté de me mettre en pièces comme un piranha, il a tué ma foi, et la tienne, dans le voyage. Ses paroles pleines de haine et de boue m'ont ouvert les yeux. Toi et moi, Mahama, nous avons fait de tout. Nous avons fait des choses illégales pour aller dans le monde des riches. Mahama, les riches sont les capitalismes. Tu n'y as pas pensé? Tu n'as pas voulu me le dire, tu voulais protéger le voyage avec le secret. Je suis mal, Mahama, je suis mal. Je suis mal parce que un sale chef de bateau s'est insinué dans ma conscience. Je suis mal parce que ce n'est pas Mahomet qui a parlé à mon cœur et à mon esprit. Je suis mal parce que je suis trop seule devant un problème si grand. Je suis mal parce que toi et moi, nous sommes plus ignorantes que ce que nous croyions. Je suis mal parce que je ne sais pas ce que c'est que cette mer. Je suis mal parce que je meurs. J'ai mal à l'estomac, Mahama. Mahama, l'intestin lâche quelque chose. Il subit la compression de l'abîme, le caca sort librement, j'ai la diarrhée. On sait rien dans toute cette eau salée. Ça se défait sans laisser de traces sur les culottes qui ondoient comme des algues attachées aux récifs. Je m'auto-lave. Je sens que je suis maternelle avec moi-même. Je remplace ma mère. Je m'auto-proclame reine de l'immensité dans la danse du mollusque. Qui veut entrer par la bouche? Je deviens exhaustive avec l'eau. Après avoir avalé le feu, la terre, l'air. Dans ce pays d'Afrique. Dans la maison que tu connais. Et qui confinait avec la tienne 24 habitants par jour en tout, parents, enfants, petits-enfants, cousins, voisins, nous respirions. Nous avions les pieds sales et nous brûlions de soleil. Oh, rien d'autre. Ni dancing sur la plage, ni rencontre entre garçons et filles. C'était risqué pour des questions de pauvreté. Il n'était pas consenti d'amener à la maison encore du feu, de la terre, encore de l'air. Nous aurions pu être écrasés par les éléments. Qui à présent me défend du cadavre masculin? Plusieurs sont déjà dans l'abîme. Dans le naufrage, certains ont été plus lourds, d'autres plus légers. Qu'en pense Mahomet? Le procédé est-il exact ? De ce procédé dépend la modalité du retrouvement de mon corps. C'est pourquoi je me fais du souci. Je me fais du souci que tout ne soit pas lié au hasard. Ah. À Lampedusa, les gardes-côtes regardent fixement les vagues, en attente des cadavres du dernier naufrage. Et de l'autre côté, Mahama, toi, qu'est-ce que tu fais ? De quelle façon attends-tu mon cadavre ? Descendras-tu dans l'océan pour fouiller dans l'eau ? Mahomet a-t-il préparé le paradis ? Rien ne bouge dans les lieux de l'éternité, tout demeure immobile. Sur moi, son œil me donne des frissons. Il y a une envie de défi que je ne connais pas, te souviens-tu ? Je crois entendre encore ces mots. Questa è la storia di un pisci spada. Storia d'amore, dai, dai, dai. Luviti, luviti. Tira la fiocina, dai, tira la fiocina. La pigiaru. La femminetta ritu, rituna lucori e chiancia di dolori. Ai, 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 ai! C'est la chanson de Domenico Modugno. Les marins l'ont portée en Afrique. Comme un trophée de retour d'une riche pêche à la fin de l'année. Je la connais par cœur. Je l'ai apprise en cachette. Les hommes étaient jaloux de leur disque. Ils ne voulaient pas que les femmes l'écoutent. Ils le faisaient passer toutes les nuits sur la plage en traînant chaque fois un vieux tourne-disque qu'ils avaient eu d'une jourme sicilienne en échange du permis de pêcher dans notre mer. Monsieur le chef de l'État italien, fais disparaître l'eau entre l'Italie et l'Afrique. Nous n'avons pas les bateaux qu'il faut pour venir te trouver. Nous n'avons pas d'électropompe pour faire des travaux si engageants. On m'a dit qu'un certain Léonard pourrait faire un travail de ce genre. Fais partir l'eau et tu verras en bas qu'Italie et Afrique sont unies. Voici mon programme. Au début, je serai employé de maison dans une famille italienne. J'aimerais une famille capitaliste. Je veux voir de près comment sont faits les capitalistes. Mahama m'a appris à bien prononcer le mot « employé de maison ». Je ne ferai pas une pitre figure, je te l'assure, ce serait mieux babysitter. Moi j'aime bien les enfants. Mais je peux m'arranger de tout, hein. Au bout d'un an de travail, je ferai étudiante tout en travaillant, le soir. Cours d'informatique. Une fois le diplôme obtenu, je chercherai un emploi dans un bureau de Rome et je doiterai toute la journée. Mais peut-être on dit je digiterai. Je reviendrai de temps en temps à autre, trouver la famille capitaliste. Car moi je m'affectionne, monsieur le chef de l'État italien. Hein? Est-ce que vous mangez? Laissez-vous des miettes? Avez-vous des enfants? Puis-je venir travailler chez vous? Mon programme ne s'arrête pas là. À force de digiter, je deviendrai quelqu'un d'expérimenté. Je deviendrai un icar. Oh non, que dis-je, un hacker. Pardonnez mon erreur. Je me suis exercée toute seule pour ce mot-là. On voit qu'il n'y a pas la main de Mahama, hein, on voit. Mahama condamne toute idée subversive. J'entrerai dans l'ordinateur de votre maison, monsieur le chef de l'État italien. Je regarderai tout ce qui n'est pas possible de voir. Chaouba, Icar, hacker. J'évoluerai nu parmi vos lois. Cela va mettre du désordre aussi parce que dans votre ordinateur, il n'y a que des lois masculines. Hein. Je me coucherai sur le hardware. C'est ainsi que l'on dit. Les cuisses ouvertes. Les fessiers, tout excités, ne font pas attention à la couleur de ma peau. Ils viendront vers moi comme des mouches. Je ne serai pas responsable de cela, mais la nature humaine masculine. Plaignez-vous de la façon dont sont faits les hommes, monsieur le chef de l'État italien. Les choses étant ainsi, pour une certaine question morale, je vous conseille de fermer l'État pendant au moins une heure. Moi, je me retire, mais vous, fermez. Cachez cette honte. Je donnerai l'envoi au plus grand exode africain. En une heure, j'y arriverai si vous fermez. Si vous fermez un œil, je dois aider ceux qui sont comme moi. Une autre charrette de la mer est en train d'arriver à Lampedusa. Ma cousine est là. Dans celle d'après, il y a la fille de ma cousine. Dans l'autre encore, la première petite fille enceinte. Car, monsieur le chef de l'État italien, ceux d'Afrique sont comme un collier de perles cassées. Nous nous désenfilons les unes après les autres. Certaines tombent de bonnes mains, d'autres se perdent. Certaines arrivent à destination, d'autres se noient. Et tout s'arrête là. Monsieur le chef de l'État d'Afrique, je ne suis personne pour vous. Pas plus pour vos employés, vos huissiers, vos jardiniers. La fois où je suis venue demander le nom de mes parents d'adoption européens, 20 000 lire par mois jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils ne m'ont pas adressé la parole. Même si je suis restée assise là pendant 5 heures, l'information je l'ai eue quand même. Une association bénévole a découvert que les parents d'Europe étaient morts des années auparavant. Devinez comment ? Sur un bateau à voile emporté par une tempête alors qu'ils naviguaient vers... l'Afrique. Et devinez encore, on n'a jamais retrouvé leur corps. Ils doivent être là, dans ces eaux. Voulez-vous que je vous dise, monsieur le chef de l'État d'Afrique, si vous offrez une croisière en dédommagement, emmenez-les eux aussi. Hein ? À présent, il n'y a plus de différence. Je pourris dans l'eau comme une feuille et je me sens si étrange, mon cœur flotte. Je le sens comme un petit bateau de papier dans une outre pleine d'eau, tellement pleine qu'elle va exploser. Ah, j'ai même envie de rire, c'est peut-être ce petit bateau qui va accoster à Lampedusa. Mais avant que le bateau gicle hors de l'outre de ce corps, je veux dire... je vous dis quelque chose qu'ici seulement j'ai le courage de dire. Les jours oui du capitalisme, je me suis sentie une chienne. Les jours non, je me suis sentie une enfant sans espoir. Je veux vous le dire, monsieur le chef de l'État d'Afrique, laissez-nous grandir, enfant sans espoir, il vaut mieux. Fermez les portes à la bonté, je hais la bonté, elle pue. La nourriture avariée, la vieillerie, le poisson en conserve. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi et pour ceux comme moi, Offrez-nous la croisière. Faites-nous voyager une semaine sur un bateau important. Ne vous inquiétez pas de savoir si nous sommes des cadavres sans plus de forme, si nous ne sommes plus que reliefs de repas de poisson. Certains n'ont plus de jambes, d'autres leur tête. Ne nous regardez pas, tournez-vous de l'autre côté. Mais envoyez-nous en croisière, emmenez-nous en vacances dans la Méditerranée, comme des grands messieurs, comme des parents à vous. Et monsieur le chef de l'État italien, permettez-moi une dernière volonté. Si la marine militaire italienne récupère mon bol de coco, demandez au chef de l'État italien de vous le rendre. Même si le dossier sera long, n'y renoncez pas. Rendez-le à Mahama. Ou si vous voulez, mettez-le dans un musée. Je suis la représentante d'un phénomène social, il faut en garder les traces. Il en va de votre histoire, monsieur le chef d'État. Vous ne pouvez pas feindre qu'il n'y a rien. Mahama. Mahama. Il y a la silhouette de la lune pleine, je la vois depuis là. L'eau fait bouger sa rotondité, elle la déforme. Oh, elle s'insinue comme une feuille claire, elle se berce et perd ses feuilles. Ma tête l'effleure. Il ne m'arrive rien, mais c'est le signal. J'ai les menstruations. J'ai l'eau dans les poumons, j'ai peur, je peux pas crier. Mourir signifie être bâillonné, j'ai peur du monstre, le même que tu as connu. C'est toi qui me l'as raconté. Tiens-toi à l'écart de tous, quand tu as ton cycle, l'odeur du sang éveille les monstres les plus horribles. Les vieilles autorités marines coulaient dans l'abîme. Et si c'était le capitalisme ? Je m'enfonce avec ma queue de sang. Le sentier rouge s'éteint dans l'immensité. C'est la dernière ligne que je dessine. Avec l'histoire de la mort mensuelle de l'enfant, tu m'as expliqué que si ce qui doit arriver n'a pas d'espace, ça fait gicler des gouttes de sang, ça implique le corps. Cette fois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment se fait-il que le naufrage et la syncope prolongée n'arrêtent pas le temps, l'espace, le corps, le sang, la peur, la violence, l'histoire, le souvenir, la morale, les éléments, le voyage, la faim, l'économie, la raison d'état, l'exploitation, le monstre, le bateau, la lune, le vent, la bonasse, la diarrhée, le poisson, l'humidité, la bronchite, la carte postale, la mission, le récif, l'illégalité, les migrations et blablabla. Mahama, tout cela marche encore. Est-elle si matérielle, l'éternité ? Mahama, la lune a disparu. Le matin s'approche de l'Afrique. Je n'ai pas de corps à te renvoyer en arrière. N'attends rien qui puisse te donner une raison. Je sombre dans l'abîme, au milieu de faux passeports, sacs en plastique, jeans élimés, planches humaines sans plus d'os, papier d'étain, quelques sandwichs déjà mordus, une seule brosse à dents, une seule brosse chez 700 clandestins. Voilà le patrimoine du naufrage. Je n'ai plus sur moi mon bol de coco. Le courant lancé violemment contre ma hanche l'a emporté. Saint coco, prie pour moi, où que tu erres, partout tu es étranger. Prie pour Shaouba, pour son corps et son âme. Pour elle, ce sont déjà deux choses séparées. Le premier va vers le fond, l'autre je ne sais où. Arrache-moi de cette humidité, expose-moi au soleil d'un jour quelconque. Je pose un pied sur le fond. Je suis arrivée. Puis un sursaut, le contact engourdit l'eau, on dirait qu'il y a du sable, c'est peut-être Lampedusa Beach, la partie sous-marine de Lampedusa, la plage de ceux qui sont en dessous. La couleur jamais vue d'un abîme parasol, les cheveux volettent dans l'eau sombre comme des algues filamenteuses, des essaims de sardines tournent autour de moi, une sardine m'embrasse. Oh, c'est ce que je crois. Elle effleure ma bouche, elle sent déjà l'odeur de gangrène ou... Ou est-ce l'amour soudain pour un échange entre espèces ? Moi, je l'embrasse. Je lui rends la chose. Cet échange entre espèces, c'est mon meilleur moment. Le dénouement crucial. Je ne sais pas si un gargouillement inattendu de l'eau peut être pris pour un orgasme. Je le seconde. C'est un salut. Nous nous embrassons avec passion. J'essaie de déchiffrer le plaisir. Ça ne m'intéresse pas si la sardine a un sexe. Tout est lié à la faim, à ma faim, à la conscience immédiate que tout est là entre moi et la sardine. Monsieur le lieutenant de la caserne Lampedusa Beach, je demande l'asile politique. Vous me dites, quel sens cela a-t-il en point de mort? Je vous dis, je pense différemment. Je marque mon désaccord. Pour ceux qui pensent différemment, un lieu n'en vaut pas un autre, comme pour tous ceux qui demandent du pain. Je demande un lieu qui garantisse ma diversité de pensée. C'est pour cela que je me suis enfuie à Lampedusa Beach. Croyez-moi sur parole. Le droit international dit que vous devez me croire sur parole. N'entrez pas dans le mérite de la question. Vous n'êtes que l'employé d'une frontière toujours immergée dans l'eau. D'après les cartes postales de Mahama, c'est ici que l'on paie le péage du transport et de la liberté, de l'Afrique vers l'Europe. Quel sens tout cela a-t-il en point de mort? Je retourne la question. Que vous coûte-t-il de me donner l'asile politique en point de mort? Écrivez la demande, moi je signe. Monsieur le chef de l'État italien fera le reste. N'en faites pas une question de temps. Qui peut voler son métier à Mahomet? Qui peut le voler à son Dieu? In extremis, tous les deux trouvent un accord et finissent par nous offrir le même remède. Faites quelque chose d'important. Il n'y a aucune dignité à être lieutenant et s'occuper exclusivement de la liste des clandestins pour les mettre dans l'enclos, puis le soir les compter. Le doute que quelqu'un puisse s'enfuir le hante? Si j'étais encore pleine de vie, j'essaierais moi aussi de m'enfuir. Ne vous tourmentez pas, ne soyez pas pédants. Nous sommes et nous serons toujours nombreux. C'est cela que vous avez rêvé dans votre vie? Dans votre cœur, n'avez-vous jamais une seule fois été en désaccord? Allez, admettez-le. Admettez-le. Réfléchissez, on ne peut pas rester dans l'endroit où l'on est quand on découvre qu'il a donné naissance aussi à son propre bourreau. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous me posez trop de questions, comme si vous n'aviez jamais vécu. Mahama dit que si les Européens ont calculé que chacun dans le monde a 7 sosies, les Africains ont calculé que chacun dans le monde a un bourreau. Votre chance est de naître dans un pays lointain d'où vit votre bourreau, avec la certitude que vous ne le rencontrerez jamais. Si le mien était né en Australie, je ne serais pas là, en train de demander l'asile politique à Lampedusa Beach. Mahama soutient que votre bourreau se cache parmi les 7 sosies. Vous n'êtes pas sorti d'affaire. Comment le reconnaître parmi les 7 qui vous ressemblent? Avez-vous jamais pensé à vous enfuir? Venez dans l'état de l'Afrique. Je vous recommanderai auprès de Mahama. Je vous fais avoir l'asile politique. Mahama, une grande juriste, l'obtiendra pour vous. Je vous en prie, partez tant qu'il est encore temps. Écrivez, je vous suggère la formule. Moi, sous-signé lieutenant subordonné à Lampedusa Beach, Chaouba, mes témoins, en point de mort, demande l'asile politique à monsieur le chef de l'État d'Afrique. Avec 4 F, s'il vous plaît. Puisque je me déclare réfugié afin de penser différemment des autres 7 identiques à moi. Un pêcheur de Lampedusa repère un naufragé. Le pêcheur fait tout pour le sauver. Il le tire sur son bateau. C'est un espadon. Il a sur les yeux les lunettes de soleil de Chaouba.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et sur Radio Canu. Vous venez d'entendre une lecture effectuée par Hélène Grange. Il s'agit d'un texte d'une auteure sicilienne, Lampedusa Beach. C'est écrit donc par Lina
Prosa
et c'est édité au Solitaire Intempestif. Merci infiniment Hélène pour cette très belle découverte, pour ce texte très prenant.
Merci à Radio Canu.
Voilà, donc vous pourrez le réécouter en intégralité un peu plus tard sur le blog. Donc tu nous as expliqué que c'est un texte qui date de 2003, que tu avais découvert par hasard ou
Alors en fait, l'envie, c'était de trouver, bon, bah, déjà des textes de dramaturges femmes contemporaines. J'avais envie de regarder un petit peu si ce qu'ils faisaient en Europe. Mmh. Et puis, bon, je suis très attachée à l'Italie, donc j'avais regardé un peu ce qui s'écrivait là-bas, fémininement, théâtralement. Donc, je suis tombée sur Lina Prosa, voilà. Et puis, j'indique que ce projet fera l'objet d'une lecture spectacle mise en voix et en musique par moi-même au Festival Migrancel en novembre prochain à Lyon.
D'accord.
Ouais. Au Lavoir et probablement à Dijon aussi pour le même Festival Migrancel dans la foulée. Mmh. Donc j'espère qu'on pourra se retrouver, cher public, à ce moment-là pour une lecture plus mise en forme, on va dire.
D'accord, bah t'hésiteras pas à nous communiquer l'info et nous on la relaiera donc dans le théâtre
avec
de la Gamelle.
Avec plaisir.
Voilà, bah merci infiniment Hélène, il est bientôt l'heure de se quitter. La semaine prochaine, c'est une émission qui est consacrée à Ernst Toller. Voilà, donc une autre émission autant couleur aussi. Un petit mot d'information pour les camarades intermittents du spectacle qui se battent toujours et qui luttent pour leur intermittence, mais pas que, puisqu'il s'agit d'une lutte aussi pour les intérimaires et les chômeurs et les précaires. Ce matin, ils ont pris d'assaut.
On peut le dire.
La direction départementale du travail à Villeurbanne, au 8-10 rue du Nord. Voilà, je sais pas si à l'heure qu'il est, ils y sont toujours. En tout cas, si vous avez envie de les soutenir, ben, vous pouvez toujours aller faire un tour là-bas, voir s'ils sont encore dans les lieux, mais je pense qu'ils résistent encore. Et puis, surtout, il y a un grand mouvement de grève qui est lancé lundi, qui va être suivi à Lyon. Il y a une journée vraiment particulière, a priori, à Lyon, ainsi que mercredi. Donc, pour vous renseigner, vous pouvez aller sur Facebook retrouver le collectif Unitaire 69. Voilà, qui se bat pour les droits de tous. Et il ne faut pas oublier que tout le monde peut être chômeur. Voilà, je finirai sur ces quelques mots. Je remercie encore une fois Hélène. Je vous souhaite
Amandine.
Merci. Je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end et une bonne semaine. Et puis donc, à la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.